Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Une jeune femme d'aujourd'hui, une belle fraîcheur à découvrir. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Sophia Tazi, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va la Sophia?
Ça va très très bien, merci beaucoup. Et je suis vraiment ravie d'être là avec toi aujourd'hui.
Merci.
Merci pour l'invitation, d'autant plus que, comme je t'avais dit, je t'ai souvent écoutée avec ma maman dans Femme d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est donc un vrai plaisir et beaucoup d'émotions de me retrouver de l'autre côté du micro.
Merci infiniment. Mais tu sais, justement, j'aurais tellement voulu te recevoir avec ta maman, en fait, en duo, toutes les deux. Ça aurait été formidable. On pourrait la faire. Oui, on pourrait faire cette version aussi. Ça serait super. Parce que justement, j'ai adoré ce message de ces deux femmes, en fait, qui écoutent Femmes d'aujourd'hui ensemble.
Avec grand plaisir.
Alors justement, Sophia, par rapport à ce que tu viens de me dire, par rapport au fait que tu écoutes avec ta maman, quand vous écoutez ensemble, est-ce que vous écoutez en tant que mère et fille ou en tant que femme ?
Alors, je dirais les deux, en tant que mère et fille, parce que maman, elle a été toujours là, dans notre éducation, dans notre parcours, que ça soit personnel ou professionnel. C'est-à-dire que le côté femme, ça nous a beaucoup inspiré, mais ce côté aussi, on dirait, de femme battante, inspirante, parce que maman, elle est très moderne, cultivée, elle a fait ses à l'étranger, elle est d'une discrétion absolue. Donc ce parcours-là de femme-là nous inspire énormément. Mmh.
Quand tu dis nous, c'est toi et tes sœurs, tu as des sœurs?
Pas du tout, j'ai un frère, un petit frère, oui, on est deux, j'ai pas de sœur. Par contre, j'ai des sœurs en fait amies, sœurs de cœur, comme on dit. Ouais. Ton émission a été toujours là, présente avec ces femmes-là, avec des exemples réels et concrets.
Alors toi, justement, est-ce que tu t'attendais à devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui ?
Honnêtement, avec toute, on va dire, toute modestie, moi je crois beaucoup en Dieu et le chemin qui nous est destiné, c'est-à-dire le Mektoub. C'est-à-dire quand on fait les choses avec cœur, on va certainement arriver à quelque chose. Quand on se met des objectifs, on va certainement les atteindre quand on y met du cœur et beaucoup de passion dans les choses. Donc, me voir aujourd'hui dans Femmes d'aujourd'hui avec toi, Yasmine, c'est juste waouh.
Tu es adorable. Mais quand je dis, est-ce que tu t'attendais à devenir la femme que tu es devenue aujourd'hui, c'est-à-dire la Sophia Tazi d'aujourd'hui, la femme entrepreneur, la femme dans les médias, dans la communication, est-ce que tu t'attendais à devenir, est-ce que tu avais prévu tout ça?
Honnêtement, non. Au début, en fait, j'ai fait mes premiers pas dans le monde en fait du luxe, et c'était une première expérience pour moi dans un univers, on va dire, exigeant, très codé, feutré. J'ai été entourée de personnalités, on va dire, exigeantes, de créateurs de figures comme Philippe Starck, etc. Je gérais des événements et des lancements de collections. En se mettant dans cette bulle-là, c'est là où j'ai goûté au monde des médias. Et je me suis tracé vraiment un objectif, c'est d'atterrir avec des experts. Et mon seul objectif était d'apprendre encore et encore. Et c'est là où j'ai vraiment bataillé pour intégrer l'une des grandes agences marocaines leaders dans les RP, où j'ai eu mon déclic et signé mon premier contrat, on va dire, de travail, même avant d'être diplômée, avant d'avoir mon diplôme. Et c'est là que j'ai commencé à écrire mon parcours et à le tracer, c'est-à-dire pas à pas.
Alors justement, le déclic, quand on parle de déclic, c'est par rapport à quoi exactement ?
Par rapport à quoi ? C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup, en fait, j'aimais beaucoup écrire. J'adore le jeu des mots, etc. Et le monde des médias me fascinait. C'est-à-dire à chaque fois que j'avais un magazine dans les mains, je me posais tout le temps cette question. Comment ça a été fait, rédigé pour que ça arrive finalement au lecteur, etc. Et d'après mon expérience, c'est-à-dire je me souviens encore de mon tout premier communiqué de presse. C'était pour le lancement d'une maison française qui s'installait au Maroc à l'époque. Et c'était moi qui devais rédiger son communiqué de presse et tracer toute la strate, en fait, le plan d'action RP et de lancement. Et j'en revenais pas. Et puis, tout s'était enchaîné, les événements, les conférences de presse, les voyages de presse, jusqu'à ce qu'une multinationale spécialisée dans l'intelligence médiatique me repère dans le business développement. Et là, encore une fois, c'est une autre tournure.
C'est quoi l'intelligence médiatique ?
Alors, l'intelligence médiatique, c'est en fait tout ce qui est l'analyse de la donnée médiatique et les insights stratégiques.
Okay.
Dans notre métier, c'est-à-dire on va observer, décrypter, comprendre comment les marques, les institutions, les dirigeants, les personnalités publiques sont perçues dans les médias et comment les récits se construisent et parfois se déforment parce qu'on gère aussi des communications de crise, de réputation, etc.
C'est magnifique tout ça.
C'est hyper challengeant. Ouais. On est dans la data, on est dans tout, c'est-à-dire dans la data, c'est sensible.
Ouais.
Et c'est du H24. Et aujourd'hui, surtout avec cette ampleur qu'a pris les médias, que ce soit les médias traditionnels ou bien, c'est-à-dire, je parle de le digital, c'est-à-dire que la data aujourd'hui te montre le chemin, mais je dirais que c'est l'éthique qui te dit comment le suivre.
Absolument.
Et voilà. Et aussi cette confiance qu'on construit avec le client.
Justement, cette maîtrise de la communication, cette maîtrise est-ce que ça nous rend un peu plus frileux à l'idée de communiquer sur soi ?
Sur soi, c'est vrai qu'il y a une certaine maîtrise, mais sur soi, c'est-à-dire qu'il faut, on va dire, prendre les mots par des pincettes pour ne pas tomber dans, on va dire, que c'est du earn, c'est-à-dire
c'est acquis.
On se pousse, voilà, exactement. Dans les médias, etc. Ça m'a beaucoup aidé l'expérience en relations publiques. Mais j'ai eu cette déformation, on va dire, professionnelle quand j'ai attaqué, en fait, quand j'ai été repérée par cette multinationale pour le business développement. C'est-à-dire que j'embrassais une nouvelle expertise qui est le commercial et c'était mon deuxième job que j'attaquais. Mais je préfère ne pas dire commercial, mais plutôt dire convaincre, porter une vision et créer une relation sincère. Et y a un autre point, curieusement, mon père et mon grand-père, en fait, ils étaient deux pionniers du commerce à l'époque. Mon grand-père, Allah yirhamo, il était toujours en vie. Baba, Allah yirhamo, il est toujours là. Et en fait, j'ai grandi dans cet univers-là. Petite, je les accompagnais parfois, j'observais et j'ai compris très tôt qu'au Maroc, pour réussir, il fallait être authentique et créer vraiment une vraie relation humaine sans artifice. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que je travaille avec des clients corporate, institutionnels de haut niveau. Ce n'est pas une question de strat commerciale, vendre une solution, etc. Mais c'est de créer, en fait, avoir de l'impact, créer un accompagnement et savoir qu'on est un partenaire de confiance.
Oui, c'est le marathon, pas le sprint.
C'est le marathon, exactement. Mmh. Il faut du temps, il faut mettre beaucoup de passion. Quand on a cette passion-là, c'est-à-dire que le marathon nous paraît, on va dire, soft, hein, 45 kilomètres, parce qu'on sait qu'il y a de la passion et il y a beaucoup de persévérance derrière.
Alors, comment on garde justement ce souffle? Parce qu'on sait que ce métier-là est très compliqué. C'est un métier, justement, enfin, dans beaucoup de métiers, on est au service du client, mais dans le tien, il y a beaucoup de deadlines, il y a beaucoup d'enjeux, en fait. Il y a énormément d'enjeux, parce que tout passe par la communication, justement. Comment tu fais pour garder cette sérénité?
Cette sérénité, on m'appelle Madame Quasi No Stress. Dessine les bancs de l'école.
Oui.
No stress, dans le sens où, c'est-à-dire que je donne à chaque chose son temps et en fait j'apprécie la valeur des choses. Et aujourd'hui, mon rôle, c'est de porter une vision claire, honnête et exigeante à ces clients-là. Et le fait d'intégrer ou là, d'incarner un leadership fondé sur l'intégrité et surtout la rigueur. Mais en fait, il y a une autre qualité qui me vient en tête, c'est l'écoute, d'être à l'écoute. C'est-à-dire chaque client, chaque brief mérite qu'on s'y investisse avec la même intensité, et cette confiance qu'on nous accorde, je la traite comme un engagement moral. Voilà.
Ouais. Il y a beaucoup de maturité professionnelle dans ton discours, malgré ton jeune âge.
Écoute, tu sais, l'éducation, elle en est pour beaucoup. Vraiment, elle en est pour beaucoup. J'ai été bercée dans un, on va dire, un milieu ou là un foyer très ancré dans des valeurs simples, c'est-à-dire dans reconnaître la valeur des choses, prendre son temps. Et je cite encore ma maman, elle m'a appris en fait la patience, le regard juste, le sens du détail et l'élégance du silence, c'est-à-dire que on est là à observer, à analyser, ensuite passer à l'action. Et en fait, cette maturité, je l'ai eue avec le temps, tout simplement, en prenant le temps de faire les choses bien et de les apprécier et de les faire avec beaucoup d'amour. Donc, je m'investis dans tout ce que je fais, je donne beaucoup de cœur, que ça soit sur le plan professionnel, personnel, avec mes enfants, mon foyer, mes parents, etc.
Alors justement, quand tu parlais d'investissement, d'abord j'ai adoré l'élégance du silence, c'est très beau comme expression. Et c'est vrai que dans nos cultures méditerranéennes, africaines, on a peur du silence.
Oui.
On a peur du silence, on a l'impression que le silence c'est froid.
On a l'impression que le silence est froid et on a l'impression que le silence aussi c'est timide. Alors que c'est pas le cas. Bon, chaque chose ne doit pas dépasser ses limites, mais il faut toujours prendre du recul et observer, analyser avant de passer à l'action.
Absolument. Alors, on a tellement parlé de boulot que je me suis dit, Sophia, c'est une workaholic engagée professionnellement qui n'a pas de... Voilà. Et j'allais te poser cette question parce que tu as dit, je m'occupe vraiment... sérieusement et sincèrement de tout ce que j'entreprends. Et je voulais te dire, est-ce que tu t'occupes de toi? Et après, tu as dit, j'ai ma petite famille, j'ai mes enfants. Mais là encore, est-ce que tu t'occupes de Sophia?
Bien sûr, je donne tout le temps à Sophia. En fait, avec l'expérience et comme tu as dit, en fait, moi, j'ai atterri dans le monde professionnel très tôt. Et j'ai embrassé ce monde avec beaucoup de plaisir. Avec le temps, et je peux dire à partir de 30 ans, c'est là où on commence à penser à soi. Parce que plus on donne du temps à soi, c'est-à-dire que on est plus bienveillant envers soi, plus on va donner plus à notre foyer, à nos enfants, à notre mari, à nos parents, etc. Donc, c'est cette force-là qui, aujourd'hui, me fait, on va dire, chagérer.
Alors, tu sais ce que je découvre dans ton discours, c'est que finalement, oui. ta génération de femmes, elle se réveille plus tôt que la mienne. tu vois, je t'assure, parce que, comme on dit à mon époque, enfin, oui. moi, je suis une quadra. Et en D'accord. général, on parle de du changement de cap de vie à 40 ans. Ou certains
à 40 ans.
Voilà. Et donc, en fait, c'est à 40 ans qu'on se dit « Ah, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je me ressente vers moi, j'ai trop donné aux autres. » Et là, c'est ouais. une trentenaire qui me dit bah, « En fait, passé 30 ans, je me suis dit « Il faut que je m'occupe de moi. » Et c'est en s'occupant de ma personne que oui. finalement, je pourrais être plus disponible pour les autres.
Tout à fait, tout à fait. Mm. Alors, moi, en fait, à 26 ans, je suis devenue maman. Et comme ce que, en fait, je viens de te dire, tout ce que je le fais, en fait, d'une manière intense. Oui, mmh. exactement. Et en fait, la maternité m'a vraiment transformée, je dirais aussi bousculée. Mais ce temps qu'on se donne à soi-même, ce qui nous permet de se recentrer un petit peu. Et j'ai eu en fait deux grossesses, c'est-à-dire j'ai attaqué ma deuxième grossesse alors que mon aîné avait à peine 16 mois. J'ai été épuisée et pourtant déterminée à tout mener de front encore une fois, jusqu'à ce que mon corps me dise stop. Et là, il m'a fallu faire un choix, c'est-à-dire que en fait, cette deuxième grossesse, je voulais la vivre pleinement. Profiter de chaque moment, ne pas être, c'est-à-dire préoccupée par le boulot, parce que c'est la communication, c'est très prenant, c'est Absolument. Les événements, c'est les voyages, c'est les learnings, c'est beaucoup de choses. Et là, j'ai posé ma démission à l'époque, un geste, je dirais, courageux et fort, mais en fait, surprise, on me l'a refusé. Mm. Et on m'a dit, Sophia, à la maison, ça, ce n'est pas toi, etc. Et on m'a proposé de rester en télétravail à l'époque. À l'époque, cette notion n'existait même pas. Mmh. Et bon, c'était risqué parce que je ne savais pas comment
travailler à distance.
Voilà, oui, à distance, exactement. Et je l'ai fait pour mes enfants, pour moi aussi. Et c'était un très bon challenge. C'était un très bon challenge dans le sens où tu as parlé de leadership et ça c'était un nouveau leadership, c'est-à-dire de trouver l'équilibre, d'être présente, c'est-à-dire pour ses enfants à l'époque en bas âge mais alhamdoulilah j'étais très bien accompagnée parce que dans tout ce tumulte il y avait lui, mon mari, l'homme de ma vie. Et alors lui, c'est-à-dire que mon mari, il a été toujours présent, c'est-à-dire solide, discret quand j'avais besoin d'espace. Il m'a jamais freinée. Il m'a toujours peut-être portée sans me le dire, parce que lui, je l'ai rencontré à la fin de ma licence. Et à l'époque, j'étais encore jeune, je faisais mes études, c'est-à-dire que c'était inenvisageable, on va dire.
Mmh. De te marier, tu veux dire ?
De me marier, j'étais en fin d'année licence, je suis tombée amoureuse, folle amoureuse, un vrai coup de foudre, et pour mes parents, ça a été un choc. Pas un refus, mais une incompréhension. J'étais jeune, idéaliste, et j'ai suivi mon cœur, parce que je savais que c'était l'homme de ma vie. C'était pas par rébellion, mais par conviction. Et avec le temps, ils l'ont compris. Et alhamdoulilah, je dis toujours avec force, sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. C'était mon mentor, mon soutien, ma boussole. On a grandi ensemble avec respect, dignité et beaucoup de communication. Mmh. Beaucoup de communication.
Quand tu dis « mon corps m'a lâché », on revient à cette période de grossesse.
Oui.
Quand tu dis « mon corps m'a lâché », qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, j'étais vraiment fatiguée. C'est-à-dire que ma deuxième grossesse, je l'ai vue comme étant une montagne.
Mais c'était un choix d'enchaîner
pas
les...
Pas du tout.
Non.
Pas du tout. C'était pas planifié, on va dire.
Okay.
Voilà, mais voilà, donc c'était mon petit corps de Sophia,
ouais,
qui voulait un peu plus de repos, que ça soit moral, physique, tout.
Dans toute cette effervescence, tabarakallah, de ta vie, effervescence familiale, maternelle, professionnelle, et la prise de conscience que je dois m'occuper de Sophia, comment tu fais pour prendre soin de toi? Ça veut dire quoi pour toi, prendre soin de toi?
Prendre soin de moi, c'est tout simplement prendre du temps à faire les choses, c'est-à-dire m'occuper de moi. Quand c'est le moment de faire un break, hormis la responsabilité qu'on a quotidienne avec les enfants, etc., c'est vraiment prendre du temps pour soi, c'est-à-dire que je vais prendre 3 jours, faire un break. Alhamdoulilah, j'ai tout le soutien, c'est-à-dire, on va dire, les parents, une yaya formidable, etc. Je vais faire un break, je vais me donner du temps à faire du sport aussi, à être active, à organiser des dîners entre amis, c'est-à-dire à sortir de cette bulle de maman, responsable, enfant, etc.
Oui. Ça te demande aujourd'hui de l'énergie de le faire?
Bien sûr.
Yeah, c'est
beaucoup de planification.
Voilà. Beaucoup de voilà, c'est pas
énormément de planification.
Mais tu le
fais. La semaine prochaine, j'ai un voyage à l'étranger. J'ai mon fils qui va en sortie scolaire pendant une semaine. Donc c'est beaucoup de planification et je dois le faire. C'est-à-dire que en fait l'organisation c'en est pour beaucoup. J'ai un mari aussi cartésien, donc ça nous aide énormément.
C'est ça. Mais tu finis par le faire. Même si c'est compliqué, tu le fais parce que tu sais que c'est une bonne chose.
Exactement. Ouais. Parce que si on passe à côté, on va être repris par le quotidien de la vie, la routine, etc. On ne peut pas passer à côté de beaucoup de choses parce qu'au final, tout le monde est content. Maman épanouie, enfant épanoui, foyer épanoui et aussi des équipes au travail qui sont épanouies.
Eh bien, c'est un plaisir de discuter avec la belle trentenaire que tu es, Sophia Tazi. Merci infiniment d'avoir
merci
été
beaucoup.
Ma femme d'aujourd'hui. Merci.
Merci, merci à toi Yasmine.
C'est un plaisir. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.